Montpellier, le 4
Novembre.
novembre 1999, je me trouve avec et va nous parler d'un sujet qu'elle connaît bien, qui est l'huile d'olive. Voilà, donc je vous laisse la parole et puis on va engager une petite discussion entre nous. Mais je vous laisse commencer. Hein?
Bien, donc je m'appelle. Donc j'ai une formation à la base commerciale. Donc je suis rentrée dans le milieu d'huile d'olive il n'y a pas très très longtemps, il y a 5 mois environ. Ça a été par hasard que je suis rentrée, parce que j'étais déjà dans le commerce, donc par hasard je suis rentrée dans le milieu de l'huile d'olive avec mon patron qui, quelque part, avait monté donc un magasin uniquement d'huile d'olive. Donc c'est un concept qui a été créé il y a 3 ans déjà, qui propose des huiles de tout le pays, de tout le pourtour méditerranéen, enfin des pays de tout le pourtour de la Méditerranée. Moi j'ai fait une formation donc dans l'huile d'olive bien sûr, parce que ce sont des huiles de haute qualité, donc des huiles qui sont souvent AOC ou médaillées. Donc on ne vend pas des huiles d'olive de cette qualité-là sans être un petit peu, un tant soit peu professionnel. Donc après c'est une passion personnelle aussi, donc on peut apprendre un certain nombre de choses dans la société, mais on en apprend davantage dans des livres et dans un investissement personnel. Donc les magasins dans lesquels nous évoluons sont des magasins dans lesquels, donc, comme je vous ai dit, on trouve différentes huiles des pays de la Méditerranée, des huiles italiennes par exemple, ou des huiles de Provence, des huiles de Grèce. Et chaque huile, bien sûr, a sa particularité puisqu'elle vient d'un pays différent, d'un terroir différent, d'une région différente. Différentes variétés d'olives sont utilisées pour faire ces huiles. Vous avez des olives noires, vous avez des olives tournantes, des olives vertes. Et bien sûr, ce sont des huiles qui vont avoir des saveurs différentes. Une huile d'olive noire va avoir tendance à donner une huile d'olive très très fruitée, très douce, très beurrée, ou très amandée, ou très laiteuse. Et une olive verte va avoir tendance à donner une huile qui va être beaucoup plus puissante. Donc c'est-à-dire des huiles qui vont être beaucoup plus vertes, beaucoup plus herbacées, beaucoup plus poivrées, des huiles beaucoup plus puissantes en ardeur. Donc à savoir qu'une huile d'olive qui va être beaucoup plus douce va davantage s'adapter à des mets comme les crudités, les poissons, les salades. Et des huiles beaucoup plus puissantes vont davantage s'adapter ou se marier, si je puis dire, avec des produits comme... dans le chaud, je dirais, c'est-à-dire des huiles d'olive, des sauces tomates, des gazpacho, des tartares, des pâtes, des viandes blanches, des choses comme ça. Donc autant de mets différents pour autant d'huiles différentes, je dirais presque. Donc l'avantage de ces produits, c'est de pouvoir avoir des huiles donc, de haute qualité, comme je disais, puisque ce sont des huiles de première pression à froid. Ce sont des huiles qui sont vierges extra, ce qui détermine le degré d'acidité de l'huile, bien sûr. Une huile d'olive qui est vierge extra est inférieure à 1% d'acidité. Ensuite, ce sont des huiles dont on peut identifier l'origine, c'est-à-dire chaque produit, chaque huile, on peut identifier le pays, la région, le domaine dans lequel les olives sont ramassées. On peut déterminer les olives, on peut y lire donc sur ces produits les olives qui sont utilisées, les mélanges de variétés bien sûr, on a quelques notes de dégustation qui sont proposées et quelques suggestions de cuisine bien sûr qui sont proposées sur chaque bouteille. Donc, et souvent parfois, même j'allais dire, celles qui sont AOC, appellation d'origine contrôlée, celles qui sont médaillées, comme certaines huiles qui sont médaillées d'or par exemple au salon d'agriculture, donc des huiles de haute qualité. Nous, chez nous, on parle donc de cru d'huile d'olive. On ne parle pas d'huile d'olive comme ça. On peut faire une comparaison avec le vin, bien sûr, puisqu'on parle en année de récolte, on parle en terroir, on parle en région, on parle en pays, On parle en goût, bien sûr. On parle en saveur que l'on va marier avec certains plats et certains mets, comme dans le vin. À la différence du vin, c'est que l'huile d'olive ne vieillit pas, elle vieillit mal. Elle a une durée de vie sur son année de récolte. C'est-à-dire, une huile d'olive qui a 3 ans peut servir uniquement à faire du gras et non pas avoir un intérêt gustatif, alors qu'un vin qui a 3 ans peut être assez intéressant au niveau du goût. Donc elle ne vieillit pas, et bien sûr ça n'a pas le même goût, il n'y a pas d'alcool, tout simplement. Donc ce sont autant de crus d'huile d'olive que de crus de vin. On peut complètement faire le parallèle avec ce genre de produit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On parle chez nous aussi de traçabilité du produit, c'est-à-dire que nos huiles, si vous voulez, on peut remonter directement jusqu'au verger, de par les indications qui sont sur les bouteilles. Donc nous on fait très très attention dans nos critères de sélection à comment sont traités les oliviers, comment les olives sont ramassées, comment elles sont pressées, dans quel délai, parce qu'il faut savoir que des olives, quand elles chôment, comme on dit, ce sont des olives qui vont chômer quelques jours, vont avoir une acidité qui va se créer entre elles, c'est-à-dire elles vont se pourrir tout simplement. Et quand vous allez presser les olives, vous allez obtenir une huile d'olive qui va être acide. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir des produits dont les olives sont pressées au moulin dans les 2-3 jours qui suivent la récolte. Donc on va faire attention à ça, on va faire attention donc au pressage, on va faire attention au nettoyage des cuves, de la façon dont elles sont entreposées dans les cuves, de la façon dont elles vont être transportées, de la façon dont du goût bien sûr aussi, parce qu'il y a des années, il faut savoir, des huiles qui sont bien meilleures que d'autres, parce que comme dans les vins, les récoltes des fois sont plus intéressantes certaines années que d'autres, de par le climat bien sûr, du gel de 56 qui a gelé un certain nombre d'oliviers et qui en Provence a détruit la totalité des récoltes. Donc on a eu en Provence une production d'huile d'olive catastrophique. Donc ça joue, comme dans les vins, ça joue, le climat joue sur la qualité de l'huile. Donc on parle vraiment de traçabilité du produit parce que jusqu'à la table du client, on s'inquiète en fait de la qualité du produit, donc de l'olivier jusqu'à la table du client, puisque nos huiles en magasin sont embouteillées dans des jolies bouteilles. En fait, on a fait tout un effort d'emballage qui est très très important et tout un effort de conseil bien sûr, parce que dans nos boutiques on est des professionnels, donc on a affaire à des professionnels dans chacune des boutiques, et c'est très important car les gens aujourd'hui ont besoin de professionnels en face d'eux et ont besoin d'avoir des conseils de qualité pour pouvoir utiliser les huiles d'olive. Donc on a des produits dérivés bien sûr de l'huile d'olive, tout ce qui peut être à base d'olive bien sûr, donc toutes les tapenades, les pâtes d'olive, tout ce qui est macération d'huile d'olive et d'herbes de Provence. On a tous les contenus bien sûr qui peuvent être des huiliers, et bien sûr tout ce qui peut aller avec une huile d'olive, c'est-à-dire des vinaigres, du poivre, du sel. Et après, on suggère quelques petits produits dérivés, mais essentiellement des produits à base d'huile d'olive et d'olive. On propose aussi une gamme de produits cosmétiques qui sont faites à base de feuilles d'olivier, parce qu'il faut savoir que la feuille de l'olivier fait aussi de l'huile. Dans certains pays, comme en Crète par exemple, on presse autant de feuilles que d'olives. La feuille et l'olive produisent la même quantité, pas la même quantité, mais produisent aussi de l'huile. Donc on a préféré faire des produits à base de feuilles d'olivier, tout simplement parce que la feuille d'olivier a une molécule beaucoup moins grasse en fait que l'olive. Donc les produits cosmétiques vont être adaptables à beaucoup plus de peau. Donc les produits à base de feuilles d'olivier sont très hydratants, mais ils ont l'avantage d'être moins gras, tout simplement.
On va reprendre l'enregistrement avec... Et la question que j'avais envie de lui poser, c'était la relation finalement presque amicale qu'elle a avec les clients. Et c'est assez surprenant de voir une telle relation de confiance entre des gens qui rentrent comme ça dans une boutique, qui ne connaissent pas, et puis finalement l'ambiance qui s'établit très rapidement entre le vendeur et l'acheteur.
Mais en fait, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Déjà, l'ambiance du magasin. Donc, on s'est attaché autour des huiles d'olive de qualité que nous avions à une ambiance de qualité, c'est-à-dire à avoir des pierres apparentes, des poutres apparentes, tout. On a essayé de recréer en fait tout le milieu de l'huile d'olive, avec les cuves dans lesquelles on entreposait les huiles, d'avoir des petites fioles d'huile de partout, des grosses bonbonnes en métal là où on entreposait avant dans les caves les huiles, de créer toute une ambiance en fait de cave dans lequel on peut trouver dans certains pays ou dans certaines régions de France des huiles d'olive. Donc le cadre y joue beaucoup. La personne qui va rentrer dans le magasin va se sentir déjà dans un endroit artisanal, va se sentir dans un endroit de confiance. Donc nous on est là, donc comme je vous disais, en tant que professionnel, on essaie de l'être. D'abord on a un tablier pour faire l'épicier, tout simplement. C'est peut-être péjoratif, mais on est une épicerie fine, donc on a un tablier pour démontrer qu'on est là pour servir le client. Donc c'est tout un climat de confiance qui va s'installer de suite, parce que le côté artisanal ressort, parce qu'on a un petit tablier, parce qu'on a la pêche, c'est clair, on essaye d'avoir la pêche, et puis après la personnalité de chacun. Moi c'est vrai que je travaille je suis née de parents de commerçants. Donc j'ai été en contact très très jeune avec de la clientèle, même sans le vouloir. Nous on habitait dans un hôtel-restaurant, donc la clientèle était tous les jours avec moi. Je me levais le matin, j'étais avec des clients, je mangeais à midi, j'étais avec des clients, et je me couchais le soir, j'étais avec des clients. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on est habitué à sentir la personne étrangère à côté de soi, et quelque part en faire un atout pour pouvoir permettre d'ouvrir la discussion et de s'intéresser à ce que l'autre peut faire et ce que l'autre peut vous apprendre. Donc déjà, la relation avec le client, on l'a ou on ne l'a pas. Donc moi, étant née dans un milieu de commerçants, la relation clientèle était une relation presque indispensable, je dirais, qui est devenue indispensable pour moi. Que ce soit dans ma vie privée ou que ce soit dans ma vie professionnelle, j'ai toujours besoin de rencontrer d'autres personnes et de rencontrer des gens, de discuter avec eux. Donc c'est vrai qu'avec mes clients, je fais exactement la même chose parce que je suis comme ça dans la vie. J'aime beaucoup discuter avec les gens. Je ne vais pas spécialement leur vendre un produit. Certes, de par mon côté professionnel, de par mon emploi, je vais leur vendre un produit. C'est clair. Mais je vais aussi leur donner de moi-même. C'est-à-dire, je vais leur parler de leur petite fille qui a 2 mois, qui est jolie comme un cœur, de leur métier, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont producteurs, alors ils vont m'expliquer un certain nombre de choses. Je vais apprendre des choses d'eux. Il faut être ouvert aux gens, ouvert aux clients, même si la personne va vous raconter sa vie et que quelque part, vous n'avez pas spécialement envie de l'entendre. Il faut être assez ouvert. Et je pense que la confiance se crée là aussi. La personne qui va sentir quelqu'un à son écoute, même que ce soit pour un sujet d'huile d'olive, c'est-à-dire de parler du produit qu'il a besoin, ou que ce soit de sa petite vie personnelle, quelque part, c'est un climat de confiance qui va se créer déjà à ce niveau-là. Donc la personne qui va arriver à la caisse pour payer, à vous de faire en sorte que la douloureuse, c'est-à-dire le moment où on passe à la caisse, se fasse de façon beaucoup plus agréable. Donc on va parler de la petite fille qui est avec eux, on va parler de leur voyage en Italie par exemple. Ils sont allés en Italie à tel endroit, ils ont fait ça, ils ont trouvé ça super, ils sont allés au Beau-de-Provence ou ils sont allés à tel ou tel endroit. Et on va essayer de faire discuter le client sur sa propre vie à lui. Donc à partir de là, il se sent concerné, il a l'impression qu'on s'intéresse à sa vie, ce qui est vrai parce que quelque part, le fait de travailler dans un magasin toute la journée, si vous vous intéressez pas un petit peu à la vie des autres, il vaut mieux rentrer chez vous. Donc à partir de là, c'est un échange qu'on a besoin plus ou moins, enfin moi que j'ai besoin. Donc c'est vrai qu'avec le client, j'ai un côté sincère qui je pense est important. Vendre quelque chose, c'est bien, surtout si c'est un produit de qualité, mais le vendre dans un climat de confiance, c'est beaucoup plus difficile. Donc moi, je suis nature avec les gens, hein, je n'ai pas la prétention d'être... de détenir le savoir, de tout savoir sur l'huile d'olive. Et j'essaye de le transparaître vis-à-vis des gens. Je leur transmets mon savoir, je leur transmets ce que je sais. J'aime la cuisine, donc j'aime bien manger. Donc je vais leur proposer un certain nombre de possibilités pour utiliser les huiles d'olive. Je vais leur donner des petits plats que je fais. Je vais leur proposer des petites recettes. Je leur fais déguster un certain nombre de choses pour qu'ils se rendent bien compte que c'est bon. On fait déguster les huiles. Donc tout ce climat-là et tout ce système-là va m'aider en fait, moi, à vendre mon produit. Et après, la personnalité, bien sûr. Hein. Ça, c'est difficile d'en parler parce que moi, j'ai des difficultés à me rendre compte de la relation que je peux avoir avec le client. Je donne beaucoup de moi-même, du moins j'essaie, malgré que des fois ce soit difficile dans le métier de commerçant, il y a des jours avec et des jours sans. On a nos soucis aussi, on a nos difficultés. Maintenant, on a appris aussi à les laisser après la porte du magasin. Ben, c'est le magasin et la vie est dehors. Donc, on la laisse un petit peu de côté. On essaie de prendre la vie du bon côté et avec le client d'avoir une relation intéressante qui peut y se permettre en fait une bonne relation, une bonne entente et le fait que la journée soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour le client et aussi bien pour la personne qui vend. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on peut avoir envie de faire la figure, j'allais dire de faire la gueule en parlant mal. Mais si on a des gens, enfin les gens sont gentils généralement, c'est rare de trouver un client. Bon, il y a des clients plus ou moins exigeants, mais il faut connaître aussi son degré de patience et son degré de tolérance. Donc à partir de là, quand on arrive à être assez tolérant vis-à-vis de certaines personnes, on passe des journées très très agréables. Bien sûr, il y a des gens, comme toujours, qui cherchent un petit peu la bébête. Mais bon, à nous de savoir comment les mettre en place et être assez diplomate pour arriver à ce qu'ils soient contents quand même. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma personnalité vis-à-vis de ça ? Pas grand-chose, si ce n'est que la vente, c'est un métier d'accord, mais je pense qu'on l'a en soi. Je pense qu'on a une disponibilité personnelle, quelque part, qui doit être importante. On doit être disponible pour les autres. Si on ne l'est pas dans sa vie, on ne peut pas l'être dans un commerce. On ne peut pas être disponible vis-à-vis des gens si on ne l'a jamais été. Enfin, je pense qu'on ne peut pas... Si on a été habitué à travailler dans un bureau et qu'on est... Enfin, je dis pas que peut-être la personnalité correspond pas, mais je pense que quand on n'a pas l'habitude d'être en relation avec des gens et qu'on refuse ça, on peut pas être un bon vendeur et on peut pas travailler dans le commerce. Il faut avoir un degré de tolérance vis-à-vis des gens très très important, je pense. Et si on l'a pas de par sa personnalité, ben je pense que dans le commerce ça marche pas. Parce que bon, il faut accepter ce que vous racontent les gens, les états d'humeur des gens, parce que les gens, ils s'imaginent que nous on n'a pas le droit, en fait, d'avoir nos sautes d'humeur, alors que le client a le droit, et ça, il faut pouvoir le supporter. Donc si dans votre vie, quelque part, vous aimez être entouré de gens, vous avez envie d'aller tout le temps vers les gens, vous avez envie de donner de vous-même, gratuitement, je dirais, parce qu'on n'a pas souvent un retour. Si vous aimez faire ça dans votre vie, vous allez, dans le commerce, vous sentir bien. Si vous n'aimez pas ça, vous allez être malheureux quelque part. Ça va mal se passer, vous allez être frustré. Il y a quelque chose qui ne va pas correspondre à vous. Moi, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup être avec les gens, j'aime les gens. J'aime donner aux gens, surtout les gens que j'aime en plus. Donc à partir de là, quand on sait donner aux gens qu'on aime, je pense qu'on sait donner aux gens qu'on ne connaît pas. C'est le but un petit peu du commerce, c'est le but et la personnalité de chacun. Comme je dis toujours, ça en revient à la personnalité. Si dans votre vie, vous n'êtes pas comme ça, dans le commerce, c'est difficile quand vous rentrez et que vous voyez la personne qui vous dit « bonjour », au lieu de vous dire « bonjour madame », il y a une grosse différence quand même. Hein. Donc « bonjour, au revoir », c'est quand même mieux que « bonjour madame, je vous en prie, faites un tour, n'hésitez pas, je suis là pour vous renseigner ». Il y a des façons de proposer les choses aux gens, c'est dans l'état d'esprit. Moi, je ne vais pas dire « je peux vous aider ?» Vous n'avez pas la même chose que « madame, si je peux vous renseigner, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider, je vous en prie, avec plaisir ». C'est une façon de présenter la chose aux gens sans pour autant les agresser, parce que les gens sont tellement agressés de nos jours dans les commerces. C'est-à-dire « je peux vous aider, mais y prenez-le, ça vous ira bien, prenez-le, prenez-le ». Le forcing dans la vente, on ne peut pas ne pas y passer, mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de diplomate de le faire. Quand on met la personne en confiance en lui disant « je vous en prie madame, faites un tour, vous avez vu que nous avons des huiles comme ça, comme ça, comme ça, vous avez vu que nous avons des produits, venez goûter, je vous en prie ». Il y a une façon de présenter la chose qui, quelque part, intéresse la personne à un certain nombre de produits et la personne va se sentir concernée de suite par le produit. Plutôt que de dire « prenez de l'huile, elle est bonne !» Alors que de lui présenter les produits en général va être beaucoup plus diplomate que de vouloir absolument lui vendre une huile ou absolument vouloir lui vendre quelque chose. Je préfère que quelqu'un m'ait demandé un certain nombre de conseils et reparte sans rien, qu'il n'ait pas la sensation d'avoir été bousculé et il va revenir, plutôt que d'avoir bousculé quelqu'un, ils se disent « bon, celle-là, elle m'a gonflé, j'y vais plus ». Voilà, c'est une façon de démarcher personnel, hein, je dirais, parce qu'il y a, dans des commerces, on vous oblige aussi. Hein, il ne faut pas croire que le vendeur fait ce qu'il veut. Il y a certains commerces dans lesquels vous êtes obligé de demander un certain nombre de choses. Vous êtes obligé d'aller derrière le client toutes les 30 secondes. Ça, c'est énervant. Moi, je trouve ça complètement énervant. Et moi, je suis contre ça complet. Je veux dire, je ne pense pas qu'on puisse, en bousculant quelqu'un et en l'obligeant à acheter quelque chose, on puisse arriver à avoir et un client fidèle et un client qui va revenir. Et le plus important dans un commerce, c'est bien ça, le fait que le client revienne. Même si la personne, elle part avec une petite babiole à 20 francs, je préfère qu'elle parte avec une petite babiole à 20 francs ou même sans rien, mais qu'elle revienne, qu'elle parte chargée avec 400 francs et que quelque part, elle se dise, mais celle-là, elle m'a gonflée, elle m'a obligée à acheter ça, j'avais pas envie. Non. Et quelque part, pour plus revoir le client, le plus important, c'est le fait de fidéliser une clientèle. Maintenant, chacun a sa façon de voir et chacun a sa méthode. Moi, je pars du principe que quand on aborde le client d'une certaine façon et qu'on est assez diplomate avec lui, même s'il achète rien, on a des chances de le revoir. Maintenant, si on l'a bousculé et on l'a essayé, ou même quand on lui vend quelque chose, hein, si on lui ment, moi, je sais pas, il y a par exemple des petites personnes âgées qui sont toutes seules chez elles, je vais pas leur vendre un litre d'huile. Parce que je sais que pendant 6 mois, elle va utiliser la même huile. Je préfère lui vendre un petit quart de litre, lui faire essayer une petite bouteille et qu'elle revienne régulièrement. Et c'est ce qui se passe, je le vois par expérience en fait, parce qu'il y a une petite dame qui est venue l'autre jour, elle me dit oh, « je connais pas votre huile d'olive, je sais. Ben, écoutez, goûtez celle-ci, vous allez voir, elle est très très bien. » Ben voilà, elle m'a dit « mais moi j'en veux pas beaucoup parce que je suis toute seule à la maison. » Alors si j'avais voulu, sans problème, j'aurais pu lui vendre un demi-litre de celle que je vends pas forcément, par exemple. J'aurais pu lui enquiller... par exemple, des tortasses, pourquoi pas. Non, cette petite dame, elle n'avait pas envie. C'était une pauvre petite dame toute vieille, etc. J'allais pas profiter de la situation et ce que je ne supporte pas. Donc à partir de là, je lui ai donné une petite bouteille de quart de litre. Elle est allée la goûter. Elle est revenue me dire que c'était super, qu'elle s'était régalée, que c'était bon comme tout, qu'elle était contente. Et je l'ai revue, bien sûr, après pour une petite boîte d'anchois, pour un petit bouchon verseur, pour des petits produits comme ça. Mais elle est contente, donc elle vient m'acheter de temps en temps sa petite chose pour me faire plaisir et pour se faire plaisir. Donc je pense qu'on a plus tendance, surtout maintenant et de nos jours, à tendre vers quelque chose comme ça parce que on est tellement habitué aux grandes surfaces, on est tellement malmené que dans des commerces comme ça qui prônent l'artisanal et qui prônent des produits de qualité, on n'est pas un service et quelque part une vendeuse de qualité qui est là pour prendre en considération la petite dame qui peut pas trop marcher, qui a fait plein de petites courses, qui a peut-être besoin d'un grand sac. Donc au lieu de lui donner un petit sac parce qu'elle vous a acheté un petit bouchon verseur, ben on va lui donner un grand sac pour qu'elle mette toutes ses courses dedans. Et c'est un petit service et une petite attention auquel elle va être sensible et auquel elle va dire ben, « Maman, je vais retourner dans ce magasin parce que la petite dame, elle est gentille, elle a été attentive à ça. » Bon, c'est vrai, il y a une petite dame qui arrive avec 4 ou 5 petits paquets différents. Mais je dis « Madame, prenez un grand sac, c'est pas grave, ça sera plus facile, etc. » Bon, ben, c'est une petite attention que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'est pas sensible. Je le fais pas spécialement pour qu'elle me fasse de la publicité. Je fais ça parce que, humainement, je la vois avec plein de petits sacs et ça me fait peine de la voir avec plein de petits sacs. Maintenant, tout le monde n'a pas ce côté sensible que j'ai peut-être. Bon, pareil, un petit garçon qui est là avec sa maman, ça fait une demi-heure qu'elle est dans le magasin, le petit garçon, il en peut plus, il en a marre, lui, Dolly, ça ne l'intéresse pas, eh ben, je vais lui faire goûter un petit chocolat parce qu'il a été sage. Ou... Enfin, voilà, c'est des petites attentions qui, quelque part... touche en fait à la personne qui se sent pas franchement concernée ou qui a besoin, enfin je sais pas, c'est une sensibilité personnelle que j'ai et tout le monde ne l'a pas. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans un magasin. Je pense que si on n'a pas ça, bah, le commerce c'est pas fait pour soi. Après, si on n'est pas comme ça, je pense qu'on n'y arrive pas.
Voilà, eh bien je crois qu'on arrive au bout de cette interview. On remercie pour l'ensemble des connaissances qu'elle nous a fournies. Et puis on la tiendra au courant donc de l'évolution de cette enquête. Voilà, merci beaucoup.
Merci
et beaucoup. J'arrête l'enregistrement.